Alors effectivement, peut-être je me présente en deux mots et puis je présente Vekam si vous voulez. Donc moi je suis en fait je suis je viens de l'univers de l'éducation populaire, c'est-à-dire que ça fait 30 ans que je travaille, j'ai travaillé 10 ans dans des villes, dans des quartiers périphériques des villes, dans des villes dans des programmes de développement urbain ou des choses comme ça, en tant qu'animateur socioculturel. J'ai travaillé ensuite à peu près 10 ans dans une structure de culture scientifique et technique en Seine-Saint-Denis, où j'animais en particulier des programmes de culture scientifique et technique, c'était non pas de transmission de la connaissance scientifique, mais d'acculturation à la question des sciences et des techniques, aux enjeux scientifiques et techniques. Et puis ensuite, à partir du début des années 2000, j'ai glissé sur deux choses, sur deux sujets qui m'intéressaient en particulier à ce moment-là. C'était un, autour du numérique et d'Internet, et deux, toujours avec le même métier d'animateur socioculturel finalement, sur des projets ou des programmes internationaux, enfin en tout cas travailler avec des gens répartis dans le monde entier, en particulier dans un premier temps francophone. J'ai travaillé sur des projets des projets d'éducation populaire en réseau, avec s'adressant à des jeunes et à des éducateurs ou des gens qui travaillaient avec des jeunes. Et puis ensuite, avec des gens en Amérique latine, sur l'idée de jumelage entre l'Amérique latine, entre des structures ou des projets qu'on classerait dans la société civile, si vous voulez, pour faire simple, en Amérique latine et en Europe. Et puis, progressivement, ces questions-là m'ont amené à travailler sur le sujet sur lequel je suis concentré aujourd'hui, c'est la question des communs, c'est comment est-ce que cette question-là nous permet de réinterroger, de réinterroger la transformation sociale, finalement. Concrètement, depuis maintenant le début des années 2010, mon implication et mon travail consistent essentiellement à faire d'une part un travail de réseautage, un travail de connexion entre des acteurs qui se préoccupent de ce sujet, des communs ou des biens communs, et conduire des projets, des initiatives qui viennent soutenir cette dynamique-là, des initiatives que moi je qualifierais d'initiatives culturelles ou de travail relevant de l'ordre du culturel. VECAM, c'est une association qui s'est créée en 1995, dont l'objet de se saisir des questions, de la question de l'émergence des nouvelles technologies, enfin de ce qu'on appelait à l'époque les nouvelles technologies. Bon, j'ai noté que dans le titre, dans la présentation, on dit bien que ce ne sont plus si nouvelles que ça. Je suis bien d'accord avec ça. Et donc, a consisté depuis les années, depuis 1995, bon, j'ai croisé Vekam à la fin des années 90, 99-2000 principalement, même si je connaissais l'association avant. Donc, ce travail de Vekam a consisté à se saisir de cette problématique-là, à mobiliser des acteurs autour de ce sujet-là, à contribuer au travail militant et politique autour de ce sujet-là. Par exemple, en France, à développer, à soutenir le développement des politiques de lieux d'accès à Internet, d'accès public à Internet. C'est engagé aussi beaucoup dans le sommet mondial de la société de l'information en 2003-2005, qui était un sommet onusien sur la société de l'information. Et puis, progressivement, à organiser très concrètement en 2005 une première conférence dont le titre était « Pouvoir savoir, le développement face au bien commun et à la propriété intellectuelle ». Et puis progressivement, du coup, à se saisir de cette question, de cette formulation autour de la connaissance, du partage de la connaissance en tant que commun ou bien commun. Alors, en fait, quand vous m'avez proposé, Étienne et toi, de me joindre à vous aujourd'hui, j'étais un peu hésitant parce que moi, je ne suis pas, je suis pas un fin connaisseur de la question du numérique en tant que tel. Enfin, je ne suis pas un développeur, je ne suis pas un chercheur qui a approfondi la question du numérique en tant que tel, mais je m'intéresse à la question du numérique à partir de ce point de vue d'animateur socioculturel. Je garde ce vocabulaire-là par coquetterie, mais pour bien dire que mon travail à moi, c'est un travail sur la transformation sociale, c'est un travail plus sur les processus sociaux que sur les questions technologiques. Je suis pas la question, par exemple, de savoir où on en est précisément aujourd'hui sur la neutralité du net. J'ai des informations et je suis au courant d'un certain nombre de choses, mais je suis pas capable de dire de manière synthétique, voilà, aujourd'hui la neutralité du net, on en est là, et voilà comment les choses se passent, voilà quels sont les enjeux précisément. Mais je suis au contact et je participe à la mobilisation autour du numérique. Je participe par exemple aux collectifs qui réunissent des organisations comme la Quadrature du Net, comme l'April, l'Association pour le logiciel libre, mais aussi les réseaux de bibliothécaires qui travaillent sur l'accès à la connaissance, les réseaux scientifiques. J'ai contribué beaucoup aussi à la mise en place du forum Sciences et Démocratie en 99, en 2009, pardon. Avec les réseaux intermondialistes, etc. Mais je ne suis pas forcément capable de pointer de manière très précise ces questions-là. Donc j'étais un peu hésitant, en fait, dans la réponse à cette invitation. Et ce qui m'a convaincu, c'était de me dire, au fond, si moi j'ai un propos à partager sur ce sujet-là, c'est pas exactement... Enfin, c'est porter un certain regard sur la technologie aujourd'hui, sur la technologie et pas seulement sur la technique aujourd'hui, et effectivement essayer de partager plus des interrogations que des résultats, si je peux dire, de ce point de vue-là. Alors, pour ça, je me suis dit, au fond, je voulais vous parler de deux choses, enfin, partir de deux expériences ou de deux sujets ou terrains, ou je ne sais pas comment on appellerait ça exactement. L'un, c'est pour pointer effectivement ce que j'ai nommé la question des plateformisations ou de la plateformisation. Parce que derrière tout ce que tu viens de raconter, je pense qu'il y a effectivement un mouvement d'évolution de la manière dont on voit ou dont on intègre la technologie qui est une évolution culturelle. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une évolution d'ordre technologique, on a une perception, on a un imaginaire, tu utilisais le terme tout à l'heure, on a un imaginaire de la technologie qui est en train d'évoluer, je pense que il évolue notamment, pas seulement vers ça, mais il évolue notamment du fait de la... Enfin, vers quelque chose que je nommerais de manière transitoire aujourd'hui une plateformisation. Alors, plateformisation, ça renvoie bien entendu à l'ubérisation, ça renvoie je dirais presque les réseaux sociaux sont un prémisse de ça, mais au-delà de ça, ça renvoie à une manière d'être reliés les uns aux autres qui est renvoyée à quelque chose qui est de l'ordre du service. Et la question qui se pose, c'est comment est-ce que ça, on peut le... Est-ce que c'est quelque chose qui est inéluctable ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut dépasser d'une certaine manière? Quelles sont les pistes ou sur quoi on travaille pour pouvoir dépasser ça? Donc les deux sujets que je vous propose, il y en a un qui va être je vais être un peu caricatural dans mon propos, mais je dirais qu'il y en a un qui est, qui est négatif et puis un qui est positif. Le premier qui est négatif, c'est que je vais présenter de manière négative, c'est le. Je vais m'appuyer sur l'exemple du compte personnalisé. Le compte personnalisé d'activité, c'est un. Est-ce que tout le monde sait de quoi il s'agit ou pas du tout? Non,
non, pour le repréciser.
Alors, pour le repréciser, au début 2017, le 1er janvier 2017, le compte personnalisé d'activité est devenu un service qui permet à chacun d'entre nous, en France, de gérer ses droits sociaux liés à son travail et à son activité, c'est-à-dire les droits à la formation, le droit, l'accompagnement dans la recherche d'emploi, un certain nombre de services comme ça qui sont liés à nos activités, mais aussi par exemple la relation qu'on a avec les services d'aide à la recherche d'emploi. On a aussi, quand il y a une obligation pour les entreprises et pour celles qui l'ont effectivement fait, vous pouvez accéder à vos feuilles de paye dématérialisées à travers ce service-là. Vous pouvez avoir un accès au décompte des points de formation auxquels vous avez le droit, etc. Ce qui se présente donc du coup comme une plateforme de services qui permet à chacun d'entre nous d'accéder plus facilement 24 heures sur 24 à l'ensemble de ces à l'ensemble, enfin ce qui est dit c'est à l'ensemble de ces droits. Alors
c'est mis en place par l'entreprise ou c'est mis en place par l'individu?
Voilà une des questions tout à fait intéressantes, c'est que c'est mis en place par l'État, c'est que en fait c'est un système, c'est une loi, ça fait partie des lois qui ont été mises en place par le gouvernement et c'est le gouvernement passe par la Caisse des dépôts et consignations, passe par un ensemble de lois qui désigne un certain nombre d'acteurs, un appel d'offres pour construire ce service, pour le mettre en ligne et ensuite pour le maintenir. Et donc là, on voit qu'il y a effectivement toute une chaîne de fabrication de ce service-là qui passe notamment par du partenariat public-privé, hein, finalement, tout simplement, puisqu'on est... là, on a en fait des start-up qui sont spécialisées dans les ressources humaines, qui ont obtenu ces contrats et qui ont mis en place ces services qui vous permettent, à partir du moment où vous inscrivez, de bénéficier de l'accès à ce service-là. Alors, quand on a, les questions que ça pose pour moi, c'est effectivement la question de qui fait le service, qui rend le service. C'est-à-dire qu'au fond, de quoi on parle en réalité? On parle de quelque chose qui est un outil, un des leviers de la protection sociale française. Hein, on est là pour le coup dans quelque chose qui est un pan très important de notre vie en tant que personne et en tant que citoyen qui relève de la protection sociale. Si on regarde plus concrètement, si on se pose un certain nombre de questions, dont celle effectivement de savoir qui fait ce service, qui rend ce service, on se rend compte que ça pose un certain nombre de questions sur la transparence du dispositif, sur la marchandisation du dispositif de protection sociale, sur l'idée au fond que on est en train de passer de quelque chose qui est d'une idée de la protection sociale qui est un objet collectif, un objet d'engagement collectif dans la société, à finalement un service, c'est-à-dire à une relation entre un individu médiatisé par une plateforme à un ensemble de guichets qui peuvent vous donner vous attribuer ou vous mettre en, en enfin vous donner le nombre de points, enfin le nombre, la quantité de services à laquelle vous avez le droit. Et donc ça, je pense que ça pose un certain nombre de problèmes et que c'est le signe c'est le signe d'une évolution. C'est-à-dire que c'est le signe d'une évolution de l'État, c'est le signe de l'évolution de la façon dont on fabrique notre protection sociale aujourd'hui. Alors si on creuse un petit peu, moi je suis allé voir par exemple les CGU, c'est-à-dire les conditions générales d'utilisation. Vous savez, quand vous allez sur un site comme Google, Facebook, enfin, tous les réseaux sociaux, ce qu'on ne lit jamais précisément. Et donc là, bah, on a aussi des CGU pour ce service-là. C'est-à-dire que quand vous allez à la Sécurité sociale, ou quand vous allez à la CAF, ou quand vous allez à votre caisse de retraite, vous avez des règlements, vous avez effectivement un certain nombre de choses. Alors, je ne dis pas qu'on les a tous lus et qu'on sait parfaitement, qu'on connaît tous par cœur le code de la Sécurité sociale. Mais pour autant, on a une certaine culture, on a une certaine acculturation à ça. Et donc, cette culture-là, plus ou moins partagée, on sait des choses, on sait parfois des choses fausses, enfin, on se fait des fausses idées parfois, bien entendu. Je ne suis pas en train d'essentialiser ou de romantiser l'ancien temps contre le nouveau, hein, c'est pas du tout mon propos. Mais ce sur quoi je veux mettre le doigt, c'est que la manière dont ça se produit est en train d'évoluer de manière tout à fait importante. Et donc, pour illustrer le propos, si vous voulez, les CGU que j'aurais pu afficher, mais je vais laisser tomber l'écran parce que ça va être vraiment trop mauvais.
On revient au papier.
Voilà, les CGU, ça se présente comme ça. Enfin, moi, je les ai imprimés. Hein. C'est comme n'importe quel CGU. Enfin, peut-être pas les pires, parce qu'il y en a qui sont vraiment terribles, là, où il y en a, c'est 250 pages en anglais, etc. Alors, on a la chance, c'est quand même en français.
Ou en coréen.
Ça n'est que 10 pages, ce ne sont que 10 pages, mais ça se présente exactement comme des CGU de n'importe quelle plateforme commerciale. C'est-à-dire que
c'est pas rédigé par un législateur.
Ça n'est pas rédigé par un législateur, effectivement.
Et ce n'est pas le style des jours heureux.
Oui, effectivement. Effectivement. Je ne m'étais même pas posé cette question-là. Mais. Si on prend quelques exemples d'éléments dans ces CGU qui montrent cette évolution, par exemple, ça donne un certain nombre de conditions techniques. C'est-à-dire que les CGU, en fait, ce qui est frappant dans ce document, c'est que contrairement à, finalement, quand on parle du compte personnalisé d'activité, le compte personnalisé d'activité, sa fonction, c'est de vous permettre d'accéder à des droits. D'accord ? La question qui se pose, c'est comment est-ce qu'un site internet peut vous permettre d'accéder à des droits ? Et en réalité, dans les CGU, on va trouver des conditions d'ordre technique qui vont être exclusives. C'est-à-dire que, par exemple, pour accéder aux pages sécurisées, je lis un extrait, pour accéder aux pages sécurisées de l'espace personnalisé CPA, le navigateur doit être paramétré SSL 3.0 et TLS 3.0, 1.0. Bien entendu, personne, moi-même, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas si mon système répond à ces conditions-là. C'est que là, ce qu'on disait tout à l'heure sur la sécurité des données, c'est ça dont on parle. Les paramètres en question, c'est des paramètres de sécurité. Personne ne sait, enfin personne, sauf un expert, ne sait si finalement son système il répond à ça. C'est-à-dire, est-ce que les données qu'il échange avec ce système vont être protégées ou ne vont pas être protégées, par exemple. Et bien entendu, si vous ne répondez pas à ces conditions-là, c'est votre responsabilité à vous, ce n'est pas celle du système, et ce n'est pas celle du système technique, mais ce n'est pas non plus celle du système social. Ce n'est pas non plus celle de notre système de protection sociale, de vous assurer ces conditions-là. Deuxième extrait, bien entendu, on va retrouver ici des choses du style « Pour ce faire, l'usager devra prendre connaissance des conditions générales d'utilisation et cliquer ensuite sur l'icône prévue à cet effet afin de pouvoir créer son compte personnalisé d'activité d'emploi. » Comme dans n'importe quel service, vous allez trouver un système où vous devez descendre au bas d'un document que vous n'avez pas lu, signer comme si vous l'aviez lu et promettre, bien entendu, que vous l'avez lu. Ce qui est... Même pas, à la limite, c'est simplement dire que vous en avez pris connaissance, ce qui est bien entendu faux. Donc, Mon propos là, il est vraiment de dire de quelle culture on parle, de quelle est la culture que ça, dans laquelle ça nous inclut. Et c'est dans ce sens-là où ça rejoint le propos. C'est pas de dire est-ce que c'est bien ou mal, ou est-ce que la technologie est mauvaise ou pas. C'est pas ça. Hein. Mon propos est simplement de dire au fond vers quelle société ça c'est en train de construire. C'est pour ça que je parle de plateformisation.
Et on perçoit bien le lien avec l'ubérisation.
Voilà, on perçoit bien le lien avec l'ubérisation, bien entendu. Et puis un dernier. Un autre champ qui est touché au fait, enfin qui du coup percute la question de la protection sociale, c'est celui de la propriété intellectuelle. Bien entendu, aussi bien sur les données personnelles que sur l'ensemble des documents qui sont produits ou mis en circulation sur cette plateforme-là, vont se poser un certain nombre de questions de propriété intellectuelle. Et quand vous avez quand vous êtes chercheur d'emploi, ou quand vous êtes retraité, ou quand vous êtes personne qui cherche un dispositif de formation professionnelle, quel est l'intérêt d'interdire la circulation de l'information ? Est-ce que notre société ne devrait pas plutôt mettre en place des dispositifs qui permettent aux personnes de travailler ensemble, aux personnes d'échanger leur expérience ? C'est-à-dire que ton expérience à toi de chercheur d'emploi peut éventuellement m'aider moi-même à chercher de l'emploi ou à trouver un emploi. Ton expérience de retraité peut m'aider à devenir mieux retraité, d'une certaine manière. Je ne sais pas si tu es retraité.
Non, pas encore.
et là, en fait, le système tel qu'il est conçu, il tend au contraire à individualiser. Il tend au contraire à considérer que tu es dans une relation strictement individuelle, et tu as l'interdiction de faire circuler l'information et de travailler en réseau. Donc on est même presque dans du contre-réseau social, d'une certaine manière. Le réseau social, il a au moins l'avantage de permettre de faire circuler des choses. Donc là, je rentre même pas dans le détail de... au départ, en fait, je m'étais dit... Je voudrais vraiment essayer de pointer que des questions d'ordre technique. Que mon propos porte vraiment que sur la technologie. Et je me suis rendu compte en préparant notre rencontre que on peut pas séparer la question technique de l'objet dont on parle. C'est-à-dire que si on était, quand on parle d'une plateforme de business ou de commerce, à la limite que les gens disent, effectivement, tu peux pas faire circuler de l'information, c'est le choix de l'entreprise de procéder comme ça. Or, on voit que même dans le commerce, les algorithmes vont permettre de faire circuler d'une certaine manière de l'information. C'est-à-dire que si tu visites telle page de tel bouquin sur la FNAC, on va te dire que les gens qui ont visité cette page-là, ils ont aussi visité d'autres pages et qu'éventuellement, ça peut peut-être t'intéresser. Mais tu as au moins une certaine circulation de l'information. Là, on est dans le cas même contraire, où on est dans cette interdiction-là. Alors, encore une fois, je ne suis pas là pour dire que la technique est en soi mauvaise, mais qu'au fond, la technologie sociale qu'on est en train de développer peut être vraiment interrogée, et qu'aujourd'hui, moi j'ai entendu par exemple le secrétaire d'État chargé au numérique, qui vient d'être nommé, qui était vice-président du Conseil national du numérique il y a encore quelques mois, nous dire, c'était sur France Inter lundi dernier, je crois, le matin, à 8h15, 8h30, dans ces eaux-là, nous expliquer que le projet du gouvernement, c'est de construire un État plateforme, c'est-à-dire de construire un État qui va avoir cette efficacité des plateformes, c'est être capable de rendre le service le plus efficacement possible aux citoyens. Le principe en soi n'est pas mauvais, mais l'idée peut sembler intéressante, mais je pense qu'il faut interroger ce que ça veut dire et de quelle manière on peut le faire. Alors je vais passer du côté positif de la force, si je peux me permettre, et là ça va être plus compliqué sans écran. Parce que ce que je voulais vous montrer, c'est au fond Le travail sur lequel moi je suis engagé à travers un projet qui s'appelle Remix the Commons, Remix bien commun en français ou Remix the Commons en anglais, qui est une plateforme, là aussi, de documentation des communs. Alors, encore une fois, mon propos est un peu caricatural. Hein. Je mets la force du mal d'un côté, la force du bien de l'autre, et forcément, je présente le projet sur lequel je travaille comme la force du bien. Donc, je veux dire par là qu'il n'est certainement pas exempt de critique, bien entendu. Mais mon propos vise simplement à dire qu'il y a la possibilité de faire autrement. Le travail qu'on fait dans Remix, alors je vais essayer de trouver des choses là, par exemple, ça c'est les conditions d'utilisation. Voilà, la plateforme en question, elle se présente comme ça. Le site que je suis en train de vous montrer là, il s'agit en fait d'un site qui est un site basé sur la technologie des wikis, donc un peu comme Wikipédia, et dont l'objet c'est de rassembler un ensemble, une documentation sur les communs. Alors on a dans cette documentation tout un ensemble de médias, principalement des médias qui qui se présentent, auxquels vous allez pouvoir accéder à partir de moteurs de recherche et de choses comme ça. Alors, ce que nous avons essayé de construire autour de ce dispositif-là, c'est un système qui... mon problème, c'est la largeur de l'écran qui ne correspond pas. Mais je vais essayer de voir si j'arrive à peut-être simplement déplacer la page comme ça. Voilà. Nous avons donc un ensemble de médias et nous avons nous avons travaillé autour de ces médias sur la constitution d'un vocabulaire que dans le site internet on va appeler des concepts clés qui sont finalement le vocabulaire des communs qui va être construit à partir de la documentation de ces médias. C'est-à-dire que quand par exemple je trouve une conférence donnée par l'article d'Étienne sur les communs, eh bien ce document-là, il va faire l'objet d'un, comme dans une bibliothèque, si vous voulez, il va être référencé, et on va lui attribuer un certain nombre de mots-clés qui nous semblent des mots-clés intéressants au regard de cette problématique des communs. Et on va à partir de là, faire un travail qui prend la forme suivante. Je vais prendre le mot squat, par exemple. Alors, là, j'ai vraiment quelques problèmes d'affichage.
C'est mieux sur le...
C'est presque mieux sur le mien, mais oui. Je m'inquiète de ce que vous voyez. On va dans ce site internet essayer ensemble d'élaborer le vocabulaire des communs. Et pour ce faire, on va d'abord essayer de trouver autour de chacun des mots qu'on a identifiés quelles sont les définitions qui nous sont proposées, quelles sont les définitions qui existent déjà et qui nous sont proposées sur les bases de données de référence sur Internet. Les bases de données de référence sur Internet, c'est DBpedia, c'est Wikidata, c'est les bases qui constituent qui sont l'infrastructure ou l'architecture du web, et en particulier du web sémantique aujourd'hui. Et donc on va aller pour chacun de ces mots là qu'on a identifiés, on va aller chercher, on va identifier en fait quels sont ces références-là sur ces bases de données. Et donc ça, pour ça, je vais pas faire l'exercice devant vous parce que c'est pas nécessaire, mais on va avec un formulaire, on va simplement aller chercher les identifiants de ce vocabulaire-là dans chacune des bases de données. D'abord dans les bases de données de référence mondiale qui constituent le web et qui alimentent les moteurs de recherche, comme Google, hein, par exemple. Et puis, dans un deuxième temps, sur les bases de données qui sont... Alors, voilà, par exemple, ici, vous voyez... les références en question. Vous voyez ici la référence dans Wikidata du mot squat, vous voyez la référence dans DBpedia qui est utilisée. Ces références, elles vont venir alimenter ici les définitions, c'est-à-dire que ces textes-là, ce texte-là, c'est la définition du mot squat dans DBpedia, et on va le trouver ici en anglais, on va le trouver ici en espagnol. Si ça existe dans les cinq langues qu'on a retenues, eh bien ces textes-là vont être automatiquement rassemblés sur notre site et tenus à jour. C'est une relation entre notre site et ces bases de données. C'est pas quelque chose qu'on copie-colle et qu'il faudrait réactualiser régulièrement. Donc ça, c'est la première manière de s'agréger et d'aller chercher des données qui nous permettent d'enrichir notre propre vocabulaire, ou en tout cas de caractériser notre propre vocabulaire. Deuxième cercle qu'on va interroger.
Il y a un lien avec le dictionnaire des communs qui est en voie d'élaboration en ce moment.
Alors il n'y a pas de lien.
C'est un gros truc.
Oui, c'est le dictionnaire du service public, enfin en tout cas du service public, de ne pas mélanger, ou en tout cas d'être très clair sur qu'est-ce qui est commercial ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Le fait, par exemple, de ne pas, pour, même pour l'État, de ne pas être propriétaire des infrastructures, de ne pas être le dépositaire ou la maîtrise d'œuvre de ces dispositifs-là, peut être quelque chose d'interroger. Et donc là, on voit qu'on a entre les mains et on a un certain nombre d'organisations qui travaillent sur ces questions-là et qui, du coup, élaborent des principes qui nous permettent effectivement de préserver une certaine autonomie ou une certaine indépendance. Indépendance numérique, si je peux appeler ça comme ça aujourd'hui.
Oui, puis
voilà, je crois,
merci, mais je crois aussi une certaine vision du collectif, hein. Parce que ce que tu soulignes très très bien, c'est cette évolution d'un état protecteur vers un état fournisseur.
Tout à fait. Ouais.
Mettant à profit ces nouvelles technologies, et c'est un discours qu'on entend un peu partout, un peu partout. Ouais. C'est que finalement, l'État n'est plus là pour garantir, il est là pour fournir. Ouais. Et puis la responsabilité individuelle, en cliquant sur « j'accepte les conditions générales d'utilisation », je décharge l'État de toute responsabilité.
Oui, complètement. L'idée qu'on est sur du service, quoi. La protection sociale devient un ensemble de services, un empilement de services, et non plus un projet de société. Et c'est ça qui, moi, me paraît être vraiment...
Ouais, mais je pense que vos interventions sont tout à fait complémentaires, parce que du coup... Il y a un besoin de se regrouper, il y a un besoin, parce que forcément, on est un être social, un être humain, et donc si c'est plus l'État qui représente ce regroupement, ce commun, au sens le plus global du terme, on va se mettre sur des petits groupes d'accointances activistes, voilà, et s'auto-entretenir, s'auto-convaincre, là où l'État, auparavant, était plutôt garant d'une certaine diversité de vision. Merci beaucoup. La parole est...